40 000 personnes sont atteintes de la maladie d'Alzheimer en Belgique, et dans une société comme la nôtre, qui accorde à la mémoire un rôle essentiel dans la construction des idées et dans la vie sociale, cette maladie est souvent vue de manière très dramatique, comme une dégradation de l'esprit associée à la décrépitude physique et à la douleur des proches. Et pourtant, il n'y a pas si longtemps, on considérait les vieux avant tout comme des sages, même s'ils étaient physiquement et mentalement diminués. Alors, en cette journée mondiale d'Alzheimer, on va se demander si une autre vision de cette maladie est possible, une vision moins catastrophiste, et on va se le demander avec une chercheuse qui étudie le vieillissement et les maladies neurodégénératives. Bonjour Gloria Frisone.
Bonjour, bonjour à tous, merci pour l'invitation.
Vous enseignez l'anthropologie médicale à l'université de Milan Bicocca et vous publiez dans quelques jours « Face à Alzheimer, l'expérience de la perte ?» aux éditions CNRS. C'est une étude ethnographique sur la manière dont la société conçoit cette maladie, le fruit de 5 ans d'enquête et d'entretien, et un livre dans lequel vous remettez en cause la vision très négative qu'on a de la maladie et de la vieillesse en général. Vous montrez qu'on a tendance à considérer qu'une personne qui perd la mémoire n'est plus qu'une version diminuée ou estompée d'elle-même, et justement vous vous appliquez à combattre cette représentation, à la questionner. Alors d'abord, Gloria Frisone, vous voulez bien nous rappeler ce que c'est que cette maladie, qui elle touche et quelles sont ses particularités?
Oui. Alors la maladie d'Alzheimer, d'un point de vue strictement médical, biomédical comme les anthropologues les appellent, la médecine, c'est une maladie neurodégénérative caractérisée par un processus de dégénération neurologique au niveau hippocampique, qui provoque du coup en première instance un trouble amnésique, c'est-à-dire ce qu'on considère normalement dans le grand public, on parle de perte de la mémoire. Ensuite, il y a aussi d'autres symptômes, d'autres troubles, qui sont des troubles cognitifs, des troubles exécutifs, entendifs, visuospatiaux, linguistiques. Mais ce qui m'a interrogée, c'est que la définition même médicale de la maladie d'Alzheimer est très attachée à ce concept de perte de la mémoire, de trouble amnésique, qui est vraiment central et qui va identifier, même au niveau de la sickness, on l'appelle en anthropologie, c'est-à-dire la vision diagnostique scientifique d'une maladie. Le trouble amnésique est vraiment central. Alors, cette perte de la mémoire est le premier symptôme, celui qui permet de définir et de poser le diagnostic. Comme vous le savez, il y a aussi d'autres maladies neurodégénératives qui touchent aussi la mémoire, mais qui ne sont pas définies par le trouble amnésique. Ça, c'est le cadre typique, parce qu'il y a aussi d'autres cadres. Il y a aussi des maladies d'Alzheimer atypiques qui ne déboutent pas avec le trouble amnésique, mais avec d'autres troubles. Mais je ne veux pas trop complexifier les choses ce matin. Alors, donc ça, c'est plutôt le cadre général.
Effectivement, et vous vous concentrez beaucoup sur cette question de la mémoire dans votre livre. C'est d'ailleurs dans des consultations mémoire avec des patients que vous avez mené votre enquête. Pourquoi vous avez choisi d'enquêter dans ces consultations mémoire, et d'ailleurs de quoi est-ce qu'il s'agit?
Alors la consultation mémoire est sortie en France en 2007-2008. C'est un service de santé publique nationale qui est déroulé dans les hôpitaux universitaires. C'est un système diagnostique complexe. C'est un système diagnostique qui se joue à l'intérieur de ce qu'on appelle l'hôpital de jour diagnostique. Et c'est l'une des séances qui est considérée centrale dans ce plan diagnostique sur la maladie d'Alzheimer, qui est un plan diagnostique qui s'est fait de manière de plus en plus précoce. Dans cette consultation, qui est centrale, qui a acquis un rôle central et qui a fait acquérir un rôle central aussi aux neuropsychologues à l'intérieur de l'équipe gériatrique. Dans cette séance, je disais, le neuropsychologue administre des tests qui ne sont pas que des tests de la mémoire, ce sont des tests cognitifs, neuropsychologiques, où on évalue des fonctions cognitive en général. Mais encore une fois, la mémoire prend une place centrale au niveau justement de la signification qu'on accorde à cette fonction cognitive. Et donc, ce qui fait que le nom de cette séance a pris, le nom de consultation mémoire, même si on ne considère pas que la mémoire.
Alors, en fait, c'est ce que vous... C'est ce que vous montrez aussi dans votre livre, parce qu'il y a les familles aussi qui participent à ça, et vous montrez bien que tout le monde se stresse sur la question de la mémoire, et que le fait que cette question de la mémoire soit centrale, ça crée une forme d'anxiété par rapport à ça, que en fait, une fois qu'on a commencé à parler de ça, chaque moment de la vie du patient est interprété comme lié à sa maladie, parce que tout est vu comme une perte de mémoire, alors que parfois, ça peut être des choses qui sont très communes et que tout le monde vit, et qu'il y a une vraie angoisse autour de ça qui donne aussi à cette maladie ce côté si dramatique. Vous dites que la perte de mémoire dans notre société, elle est considérée comme une sorte de mort sociale, mais vous remettez en cause cette vision, Gloria Frison, et vous nous expliquez que cette idée que la perte de mémoire est une mort sociale, en fait, c'est une construction. Alors, comment cette vision très négative de la perte de mémoire s'est construite ?
Alors déjà, dire que c'est une construction, ça ne veut pas dire que ce n'est pas vrai, ça ne veut pas dire que la maladie d'Alzheimer soit quelque chose de positif, bien sûr. Ce n'est pas quelque chose de positif, mais je voulais justement, d'une manière très anthropologique, parce que les anthropologues médicaux font ça, questionner pourquoi... Quelles sont les conditions sociales et culturelles pour lesquelles on considère la maladie d'Alzheimer comme une perte de l'identité. J'ai pensé à l'époque, même avant de débuter cette recherche, j'ai pensé que j'allais toucher quelque chose de très très chargé au niveau culturel, symbolique, au niveau identitaire, j'oserais dire, c'est-à-dire au niveau de signification implicite que nous associons à la mémoire d'une manière immédiate, sans questionner. Et du coup, j'ai pensé qu'il fallait faire quelque chose, il fallait se poser des questions. D'une certaine manière, si on pense qu'on a l'habitude à faire le lien, un lien que j'ai appelé un lien de consubstantialité entre mémoire et identité, on comprend bien que ce que ça veut dire pour nous perdre la mémoire. Si la mémoire veut dire aussi identité, perdre la mémoire, c'est perdre l'identité. Donc c'est perdre nous-mêmes, quelque part, c'est perdre c'est pas notre âme. Donc, c'est pas vraiment une mort sociale, c'est pas que ça. La mort sociale, normalement, on l'associe aussi, par exemple, aux retraités. Quand on n'a pas un rôle, on a perdu le rôle dans la société de marché. Mais là, encore plus, c'est une mort anticipée. En fait, les patients et surtout les aidants familiaux parlent souvent du deuil, d'un deuil blanc. Le deuil qui s'est fait avant la mort du proche. Bon, voilà. Donc vraiment, ça touche l'identité, ça touche la relation familiale. Et c'est quelque chose que... C'est pas positif, mais c'est quelque chose qu'on peut questionner.
Oui, alors vous le questionnez beaucoup parce que notamment vous nous dites que, en fait, contrairement à cette image un peu terrifiante qu'on a de la maladie d'Alzheimer où la personne perd son identité, vous nous dites que les personnes qui en sont atteintes élaborent en permanence des stratégies d'adaptation précisément pour préserver leur identité. Est-ce que ça veut dire, Gloria Frison, et qu'on reste quand même soi, même si on perd la mémoire ?
Bah, c'est en fait, le message qu'il voulait faire passer, c'est que, effectivement, celui-ci, c'est vrai, nous, on dit souvent, et les patients le disent souvent, je suis ma vie, je suis ce que j'ai vécu, donc je ne pourrais pas perdre mes souvenirs sans perdre moi-même. Ça, c'est vraiment quelque chose qui revient souvent. Mais cet lien, je disais tout à l'heure, un lien de consubstantialité, c'est créé dans l'histoire de la pensée occidentale. Au moment où, par exemple, si on pense à l'identité narrative grégorienne, cette conception de la mémoire autobiographique est née à partir des confessions de Saint-Augustin, mais encore plus des confessions de Rousseau, c'est-à-dire le fait de revenir à soi-même, de réfléchir à soi-même, de comprendre nous-mêmes, à partir de notre histoire de vie, en revenant sur nos passés. Donc ça, ce lien-là, c'est quelque chose qui est très ancré et que fait vivre la maladie d'une manière très, très négative, mais aussi dans la quotidiennité, dans la relation quotidienne. Il n'y a pas que ça dans le monde. Dans le monde, on parle de maladie d'Alzheimer de plus en plus, même dans d'autres sociétés, parce que le vieillissement, on parle souvent de vieillissement dans l'Occident, mais il y a le vieillissement même dans d'autres continents. Et dans les autres continents, je pense au Japon, par exemple, la vision de la maladie d'Alzheimer est une vision complètement différente.
Alors laquelle, par exemple? Parce que c'est vrai que vous citez ce lien entre la mémoire autobiographique, se rappeler de sa vie et l'identité, en disant que c'est vraiment, dans notre culture européenne, très consubstantiel. Hein, se rappeler de sa vie, ça veut dire encore être soi. Au Japon, comment est-ce qu'on conçoit cette perte de mémoire?
En Japon, j'aimerais aussi citer Jason Danley, qui est un anthropologue médical, lui aussi américain, et qui a beaucoup parlé de la vision de la vieillesse en général au Japon, qui est très différente de notre vision du bien vieillir, par exemple. Nous, on pense que bien vieillir, finalement, pour faire vite, hein, je ne veux pas trop simplifier, mais pour faire vite, bien vieillir, c'est ne pas vieillir du tout, ou vieillir d'une manière très juvénile, ou être le plus possible près de ce qui est une personne en santé, une personne joviale, une personne avec beaucoup de relations. Alors que la vision de la vieillesse dans la société, par exemple, japonaise, c'est une vision qui la vieillesse, c'est un âge de la vie où on accepte de se rapprocher de plus en plus aux ancêtres. Et donc, on fait beaucoup la commémoration, mais ce n'est pas la commémoration de notre vie personnelle, c'est la commémoration des ancêtres. Et c'est ça qui fait tourner un peu la page avec notre passé en projetant la personne âgée à l'avenir. L'avenir après la mort, l'avenir dans cette relation avec les ancêtres. Et donc ça donne aussi, il dit, un espoir de vie. C'est pas que une limitation, la vieillesse peut donner aussi une posture d'espoir. Bon, voilà.
De l'espoir dans la vieillesse et malgré la perte de mémoire, hein, c'est vraiment la conclusion de votre livre, Gloria Frisone. Je rappelle que vous êtes chercheuse, que vous enseignez l'anthropologie médicale à l'Université de Milan et que vous publiez Face à Alzheimer, l'expérience de la perte aux éditions CNRS. Et la conclusion de votre livre, hein, je la lis, c'est « Il est l'heure de réhabiliter l'identité des malades d'Alzheimer pour commencer à les concevoir non plus comme des sujets en pleine disparition d'eux-mêmes, mais malgré leur perte de mémoire, comme étant toujours les mêmes personnes. » Voilà, message positif qu'on va terminer aussi avec un disque très positif.